Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à vous toutes et tous qui nous rejoignez en ce samedi 25 octobre 2025 pour votre émission littéraire. En effet, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous allons vous proposer aujourd'hui un entretien avec Audrey Brière qui signe aux éditions du Seuil un deuxième polar qui a pour titre « Mauvais cœur ». Nous avons enregistré en public cet entretien. C'était au cinéma de Toussy lors de la 8e édition de Toussy Storique qui s'est tenue le 23 août dernier, donc dans Lyon, à Toussy. Organisée par l'association Toussy Historique avec le soutien de la librairie Joffac de Toussy et de l'association du Vieux Toussy, cette 8e journée du livre d'histoire a rassemblé une quarantaine d'auteurs, dont des bédéistes et des auteurs jeunesse, mais également des conférenciers, des dessinateurs et des éditeurs. Cette 8e édition de Toussy Historique s'est tenue dans le cadre exceptionnel de l'église fortifiée Saint-Pierre à Toussy. Et cette année, le salon était présidé par Éric Branca, historien de formation, et l'invité d'honneur était Olivier Mazerolles. Aujourd'hui, nous allons effectivement découvrir l'intrigue du deuxième polar d'Audrey Brière, intitulé « Mauvais cœur ». L'action commence en 1922 dans un petit bourg du nord de la France où se dresse le Familistère, un immense bâtiment de briques rouges, de verre et d'acier où sont logés les employés des fonderies Godin et leurs familles. Une communauté ouvrière unique fondée sur une utopie humaniste. Pourtant, ce matin-là, leur institutrice est retrouvée assassinée. Le mal se serait-il introduit dans cette communauté parfaite ? Je rappelle qu'Audrey Brière, après les malvenus unanimement salués par la presse et les libraires, Audrey Brière revient donc avec « Mauvais cœur » paru aux éditions du Seuil, une sombre enquête au sein d'un lieu extraordinaire et méconnu. C'est d'ailleurs à travers cette première question que débute l'entretien avec la romancière, pourquoi avoir choisi le Familistère de Guise ? Audrey Brière.
Pourquoi le Familistère ? Parce que quand j'ai écrit le premier volume qui s'appelait Les Malvenus, moi je l'ai écrit en fait comme ce qu'on appelle un one-shot. Je n'avais pas prévu de faire de suite. Et quand il est sorti, il a connu un très bon accueil et on m'a sollicité en fait pour écrire une suite pour qu'on retrouve les personnages donc de l'inspecteur et de son assistante dans un deuxième volume. Ce que j'ai fait avec plaisir, mais du coup je me suis quand même demandé qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter puisque moi dans ma tête leur histoire était elle n'était pas terminée dans l'absolu, mais j'avais fini de m'en occuper et surtout où ça allait se passer puisque dans Les Malvenus on est dans un petit village en Bourgogne que j'ai un peu saigné jusqu'à l'os pour le premier roman. J'avais pas du tout envie de réutiliser le même décor, donc j'ai cherché un lieu qui soit très chargé parce que moi, c'est ce que j'aime écrire. J'aime bien que le lieu dans lequel se déroule mon histoire soit comme un personnage à part entière. Ça, c'était vraiment un critère. Et après, c'est une succession de hasards, puisque il se trouve que j'ai une sœur qui habite Amiens, qui m'a dit un jour, tu devrais aller visiter le Familistère de Guise. Je suis sûre que ça va t'inspirer pour ton prochain livre. Et comme quoi, elle me connaît bien parce qu'effectivement, j'ai été visiter le Familistère une première fois, une deuxième fois. J'y suis allée plusieurs fois et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit, que ce soit d'un point de vue architectural, parce que ceux qui connaissent savent que c'est magnifique, et puis par évidemment aussi l'idéologie qu'il y a derrière et puis les objectifs en fait hein, de Godin quand il a créé cet endroit. Et après, j'ai trouvé ça, en fait, c'est quelque chose qui est donc un endroit, on va certainement en parler, qui a été créé et qui est décrit aujourd'hui comme une utopie réalisée. c'était vraiment un pain béni en fait hein, pour un auteur de polar de pouvoir dire bon bah c'est pas en fait sous le vernis de cette société idéale, sous le vernis de ce bonheur absolu qu'un patron a créé pour ses ouvriers, se cache évidemment tout ce qu'il y a de plus sombre chez l'humain et puis donc le crime, etc.
Alors Audrey Brière, vous êtes pas révélée.
C'est vrai.
Vous ne voulez rien
dire. Non, mais dire de moi
Où êtes-vous née Quel est votre lien avec la Bourgogne? Y en a-t-il ou pas?
Alors oui, je suis née à Poitiers, mais c'est vrai que ma famille maternelle est originaire de Bourgogne. Voilà. Donc si, pour la petite partie réaliste, c'est le village de Haute-Cœur, donc qui est le village des malvenus du premier roman. C'est un village dont j'ai inventé le nom, mais qui existe vraiment et qui a été donc le village dans lequel ont vécu mes arrière-grands-parents pendant très longtemps.
Dans quel département de la Bourgogne?
C'est à Montcenis. Alors, ne me demandez pas le numéro.
Saône-et-Loire.
71, ça doit être ça.
Alors revenons dans ce département de l'Aisne, cette région des Hauts-de-France, puisque nous sommes à Guise, en 1922. Alors le roman s'ouvre, on est déjà les pieds dans le sang, dans une scène absolument glauquissime, j'invente peut-être l'adjectif. Mais finalement, nous avons affaire à un personnage, un inspecteur principal de police haut en couleur qui arrive sur sa moto. C'est une Rover impériale. Donc il arrive, on est à l'automne, je crois, 1922, par temps de pluie. Ça pleut beaucoup hein, dans ce roman.
Oui.
Beaucoup d'éclairs, beaucoup d'orages, une météo tempétueuse, tout comme l'action d'ailleurs est tempétueuse. Comme peut l'être aussi parfois l'esprit de cet inspecteur principal, donc qui s'appelle Mathias Lavaux, et qui est convoqué au familistère de Guise parce qu'il y a eu un meurtre. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Audrey Brière, on est dans une structure qui normalement est consacrée à une forme de paix sociale. Et là, bruissement, agitation, traumatisme tout de même, c'est pas n'importe. La première victime n'est pas n'importe qui, puisque c'est l'institutrice des écoles du familistère. Ça, c'est le point de départ. On reviendra peut-être sur l'inspecteur et puis cette jeune femme qui le rejoint dans l'enquête, qui est plus médecin légiste qu'inspecteur. On reviendra sur les caractères de ces personnages dont vous avez donné des origines très, très particulières aussi. Il y a aussi la psychologie des personnages. Alors, concernant le familistère, justement, Audrey Brière l'a dit, il s'agit d'un familistère qui a été pensé et voulu par celui qui en est le concepteur, Jean-Baptiste André Godin, et sa compagne Marie Moret. C'est un homme de la seconde moitié du 19e siècle.
Oui, puisqu'il est mort en 1888. Donc Jean-Baptiste André Godin, c'était qui? À la base, c'était un homme issu d'un milieu assez modeste. Hein. Il faisait pas partie ni des plus riches ni des plus pauvres. Et il est parti en compagnonnage sur les routes de France, parce qu'il voulait voir comment vivaient les ouvriers. Avant lui-même de lancer ses projets d'industrie, il avait vraiment à cœur de s'imprégner de ce qui existait, de ce qui se faisait. Et en fait, il a fait le tour de France comme ça, et il a fait un constat désarmant, qui était que les ouvriers, qui étaient à l'époque les premiers producteurs de la richesse du pays, étaient les plus malheureux d'un point de vue social. C'était les plus mal logés, ceux qui avaient l'accès le plus dramatique au système de santé. Bref, voilà, qui étaient dans des taudis insalubres, sans lumière, avec beaucoup d'humidité. Et quand il a acheté ses usines, quand il a bâti ses usines, puisque les usines Godin sont à Guise, il a acheté un terrain assez grand en fait et assez bien placé. Il s'est dit un jour, je bâtirai en fait des logements pour mes ouvriers juste à côté. Donc en fait, il a fait les choses par étapes. Il a d'abord bâti ses usines et puis lancé son industrie. Et puis dans les années 1860, il a construit ce bâtiment qu'il a appelé le palais social. Et c'est vraiment une tête de palais. C'est trois bâtiments comme ça d'appartements. Donc qui sont. Alors c'est assez rigolo parce que moi, la première fois que je suis rentrée, et je pense pas être la seule, je me suis dit c'est marrant, on dirait une prison. Parce qu'en fait, vous rentrez dans une espèce de halle comme ça qui est immense, et donc avec une sublime verrière en verre et en acier qui coiffe le tout. Et puis vous avez donc tous ces appartements.
Et les coursives peut-être qui font penser à l'univers carcéral.
Exactement. Et en fait, c'est ce système aussi un petit peu de quand on est au milieu, on voit tout. On a vraiment une... Mais c'est assez frappant en fait comme similitude d'un point de vue architectural. Et donc il a bâti ce palais comme ça avec ses trois ailes. Il a bâti en face, il y avait... Après, j'ai plus la chronologie exacte de la construction, mais il y avait aussi un bâtiment qui servait justement à accueillir un théâtre, parce que le divertissement était une partie importante de la vie, et les écoles, puisque les enfants des ouvriers, il fallait bien qu'ils aillent à l'école. Et il y avait même, avant la Première Guerre, derrière le palais social, un autre bâtiment qui accueillait les enfants qui n'étaient pas encore en âge d'aller à l'école, pour que les mères qui souhaitaient retourner travailler avant les 3 ans de l'enfant puissent y aller. Donc on avait cette nourricerie, ça s'appelait comme ça, ce pouponnat, cette nourricerie, qui accueillait les enfants de 2-3 mois jusqu'à leur entrée à l'école.
Alors on est... Le roman débute en 1922, ça veut dire que c'est plus d'un demi-siècle après 63 ans, je crois précisément, dit un des personnages. Alors, quelles sont les exigences à respecter, y a-t-il des contraintes dans ce familistère ? Parce qu'il y a une bulle sociale bien particulière, et bien sûr, les ouvriers, ils viennent, ils payent un loyer, ce n'est pas gratuit, chacun...
Non,
mais
ils payent un loyer, tout à fait.
Est-ce qu'il y a une charte, des règles de bonne conduite à respecter ?
C'est très tacite, c'est-à-dire qu'ils payent un loyer, mais ils ont donc un accès gratuit à tout le reste. Le divertissement, donc cet accès au théâtre, les enfants qui vont à l'école, les nourrices qui s'occupent des petits, la piscine, effectivement il y a aussi ce bâtiment en fait qui servait en fait de laverie, hein, pour que les femmes aillent faire la lessive à l'extérieur des appartements pour maintenir en fait la salubrité des appartements, et puis qui comprenait aussi des douches. Et en fait ce bâtiment, il était entre le palais et l'usine, si bien que les ouvriers, quand ils rentraient chez eux après leur journée de travail, ils passaient par les douches, se lavaient avant de rentrer chez eux. Tout était extrêmement bien pensé. Après, en termes de contraintes, c'était très tacite, c'est-à-dire que c'était quand même très communautaire. Et parallèlement à tout le génie de cet homme qui a imaginé, qui a tout conçu, qui était avant tout un brillant inventeur, hein, parce qu'il ne s'est pas contenté de jeter des idées. Hein. Il dessinait les berceaux qui étaient ensuite construits pour les petits, il dessinait les petits pupitres des enfants qui allaient à l'école, en prenant en compte tout un tas de paramètres. Par contre, c'était quelqu'un qui... c'était quand même très paternaliste. Donc, c'était le... Monsieur Godin avait dit qu'il fallait faire comme ça. On faisait comme ça, quoi. C'est tout. Les berceaux, par exemple, il y a une anecdote que je trouve assez parlante. Il avait imposé, donc, dans tous les logements où il y avait des bébés, il avait lui-même dessiné un berceau, donc, qui était très intelligemment pensé, parce que, en fait, c'était un berceau qui permettait de mettre le bébé sans sa couche. Comme ça, l'enfant, il marinait jamais dans son jus, si vous me passez l'expression. Et dessous, il y avait un espèce de bac avec du son qui recueillait en fait tout ce que le bébé pouvait produire. Et après, tous les jours, il y avait quelqu'un qui passait, qui récupérait tous ces déchets, et ça allait directement au potager, en engrais. Donc vraiment, il y avait... Alors ça, c'est fabuleux, on vous raconte ça, mais quel génie, et puis quelles belles intentions. Et puis après, on vous dit, et puis le berceau, il était fixe. On ne pouvait pas bercer l'enfant. Et on ne pouvait pas bercer l'enfant parce que M. Godin trouvait que c'était feignant de bercer un enfant qui pleurait dans son berceau. Il fallait que sa maman le prenne dans ses bras et s'en occupe.
Alors, beaucoup d'ingéniosité technique de ce M. Godin, donc qui est celui qui crée les poils
oui,
Godin.
Oui,
il y a différents
fait.
Modèles. Alors, nickelés, émaillés,
voilà.
Sont de très...
Les poils, très... les cuisinières, tous ces...
Alors, ingéniosité technique aussi. Et puis, est-ce que derrière cette utopie sociale, est-ce qu'il y a un brin d'engagement politique Pas trop, en fait.
Pas de façon...
Sait-on, finalement, idéologiquement, où Godin se situe dans une époque où le capitalisme est flamboyant, finalement, dans cette seconde moitié du XIXe siècle en France?
Il se situe quand même plus de l'autre côté. Ça, oui. C'est sûr que... Après... Son discours à lui, c'était, moi, la lecture que j'en fais, en étant ni historienne, ni spécialiste du personnage, la lecture que j'en fais, c'est, il voulait laisser une, je pense que c'est quelqu'un qui voulait laisser sa marque dans l'histoire en tant que bienfaiteur, en fait, en tant qu'homme qui avait fait vraiment évoluer l'habitat. Et, d'ailleurs, quand vous visitez le Familistère, il y a les jardins du Familistère qui comprenaient le potager, qui comprennent d'ailleurs toujours des serres, des potagers, etc. Et il y avait un endroit, j'ai plus le nom précis en tête, mais donc quand il recevait des gens pour leur montrer son expérience, pour leur partager ce qu'il avait construit, il les emmenait à cet endroit précis du jardin, parce que à cet endroit précis du jardin, on avait une vue sur le Familistère, sur la ville de Guise et sur le château des ducs de Guise qui se situe dans le même espace. Et en fait, il voyait ça comme un peu comme une frise chronologique de l'évolution. Il y avait le bourg de Guise où il y avait tous les ouvriers qui n'étaient pas logés au Familistère et qui vivaient dans des taudis insalubres, comme partout en France. Il y avait son Familistère et ensuite il y avait le château. Et je pense que moi, ma lecture, c'est qu'il voulait vraiment... Il y avait ce côté très paternaliste, ce côté un peu démago, qu'il voulait apparaître comme quelqu'un qui avait fait évoluer l'humanité, en fait.
Dans votre roman « Mauvais cœur », vous citez les propos de Godin, donc de Jean-Baptiste André Godin en 1881, s'adressant aux membres de l'association coopérative du capital et du travail. Et
ça rappelle quand même quelqu'un d'autre.
Voici, je lis donc ces propos de Godin que vous reproduisez dans votre roman, Audrey Brière. « Le Familistère vivra. L'idée qui y a donné naissance est impérissable. Elle vivra autant que le monde. Et quand les murs de briques qui nous abritent seront tombés en poussière, les générations se transmettront le souvenir des enseignements qui auront été incarnés ici. » Votre roman, Le Familistère, il existe encore en 1922. Quand ? Parce qu'actuellement, les bâtiments existent toujours. C'est patrimonial, on les visite. Alors, je crois qu'il y a l'idée peut-être de réhabilitation avec des projets.
Alors, on le visite, bien sûr, mais sauf erreur de ma part, il reste encore quelques appartements qui sont habités. Par des descendants, en fait, des familles d'ouvriers qui ont travaillé aux usines Godin.
Alors, est-ce qu'on sait quand le Familistère cesse d'être...
Dans les années 1960, je crois que c'est 1969, la fermeture du Familistère en tant que Familistère, que projet communautaire, sociétal, c'est 1969 de mémoire. Donc, c'est 80 ans, un peu plus de 80 ans après la mort de Godin.
Les propos de Godin que je viens de lire sont prémonitoires. Enfin, ça a continué à exister. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encore imaginer une réinvention de Familistère par des grands groupes industriels qui pourraient reprendre ce principe? Est-ce que ça existe encore, à votre connaissance, en Europe ou dans le monde?
Alors, je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des expériences vraiment physiques comme ça, qui s'incarnent dans la pierre ou dans le béton, comme avant? Je ne sais pas.
Mais est-ce qu'il y a eu des successeurs ou des... Parce qu'il est question d'un autre Familistère dans le roman.
Alors, Godin n'a rien inventé. Si c'est, oui. C'est-à-dire qu'il y avait des Familistères qui ne s'appelaient pas comme ça, qui s'appelaient des Phalanstères, qui existaient précédemment. Il y en avait un en Belgique, il y en avait un en Suisse de mémoire, et il est allé également prendre son inspiration aux États-Unis. Il y avait également ce genre de choses aux États-Unis. Après, ce qui était pour moi un petit peu similaire tout en étant différent, c'est les cités ouvrières qu'on a eues aussi dans l'Est, en Bourgogne, la cité au Creusot, par exemple,
les Schneider,
voilà. C'est... Alors après, c'est pas... Voilà, je pense que l'idéologie derrière n'est pas tout à fait la même. Et est-ce que ce serait possible encore aujourd'hui? Alors c'est toujours pareil, c'est ma lecture de la situation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. à l'échelle individuelle, mais justement, on est quand même très individualiste. Moi, vous me feriez pas habiter dans ce genre d'endroit. S'il y a trop de proximité avec les autres, la communauté, elle est trop pressante en fait. Il y a trop de pression pour faire les choses ensemble. Vous sortez de chez vous, vous êtes nez à nez avec le. Alors vous allez me dire, quand vous vivez à Paris dans un appartement, sauf que c'est pas tout à fait la même chose. Vos enfants vont pas forcément dans la même école. Vous travaillez pas forcément au même endroit. Pour moi aujourd'hui, ça serait compliqué de reproduire exactement ça. Mais bon, ça, c'est plus un avis personnel. Et puis, les gens, aujourd'hui, donnent leurs informations, partagent leur vie ailleurs, en fait, hein, qu'avec leurs voisins.
À l'instant, la romancière Audrey Brière, écrivain diplômée d'une maîtrise et d'une licence de sciences politiques, enregistrée le 23 août dernier, lors de la 8e édition de Tous Historiques. C'était donc au cinéma de Toussy, dans le cadre de cette 8e édition de la Journée du Livre, consacrée à l'histoire qui connaît chaque année un très vif succès. La suite de l'entretien avec le romancière, juste après une première virgule musicale. On se retrouve bien sûr avec elle, toujours sur Radion.
J'étais gosse, je rêvais de tout, de pouvoir voir de près la lune, de gambader un peu partout, de voir ce qui se cache derrière les dunes. J'ai même rêvé d'être agriculteur, de vivre là-haut entre ces deux fleurs, les yeux béants restés rivés sur les couleurs d'un arc-en-ciel. J'avais la bouche en forme de cœur, j'embrasse une vie au goût de miel. C'était un monde imaginaire, je croyais même aux bons hommes verts et aux petits lutins. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. J'ai fait mon sac, mon baluchon, j'ai pris mes feutres et mes crayons. À chaque problème sa solution, je n'avais qu'une seule ambition, celle de chanter la vie des autres. J'ai fait ce choix d'être des vôtres et de penser les plaies des uns. Je n'attends plus ce bel apôtre, et si le destin choisit le bien, je ferai ce que je pense et ce qu'il me plaît, en faisant vivre ce doux espoir. Quand d'autres exploitent le désespoir qui plane sur l'être humain. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. De tous les rêves que j'ai construits, que reste-t-il au fond de moi? Ces vieilles photos, ces lourds émois que j'ai classés par utopie. Si tu entends aussi cette voix, c'est qu'on est tous un peu comme toi. Le bel enfant s'est endormi dans le train-train de la petite vie. La belle Alice nous a menti sur les merveilles de son pays. À mes idées, je reste fidèle, car après tout la vie est belle, et on verra demain. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. Passe à ton voisin. Passe à ton voisin. Passe à ton voisin. Et passe à ton voisin.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre, nous allons tout de suite poursuivre l'entretien enregistré en public au cinéma de Toussy. C'était le 23 août dernier lors de la 8e édition de Toussy Historique, entretien avec Audrey Brière, qui a fait paraître son deuxième roman, un polar, aux éditions du Seuil et qui a pour titre « Mauvais cœur ». C'est aussi, bien évidemment, très intéressant de se pencher psychologiquement sur le personnage principal, l'inspecteur principal, qui enquête sur le premier meurtre, à savoir celui de l'institutrice au familistère de Guise. Et puis ensuite, il va être amené à enquêter sur d'autres meurtres dans cette même structure humaniste. Mathias Lavaux, au passé douloureux, un enfant abandonné, recueilli par Sœur Marie et élevé au clos des Ursulines, un couvent niché à flanc de colline, au cœur de la Bourgogne. Audrey Brière.
Oui, ça c'est l'aspect, il faut forcément créer un petit décalage en fait, hein. Tous les personnages ne peuvent pas avoir le même avis sur le décor. Et effectivement, mon personnage d'inspecteur, qui est complètement fictif, débarque et se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ?» Où est-ce que je suis tombée? C'est qui? C'est malade. Parce que lui, effectivement, il a été élevé dans un couvent, mais à la campagne. Il est très solitaire. Cette proximité là, le refroidit un petit peu. Il a du mal avec cette idée que finalement chaque aspect de la vie de ces gens est millimétré par quelqu'un d'autre, en l'occurrence. Donc oui, ça permet en fait d'avoir une vue à travers les yeux du personnage, une vue critique en fait de cette institution.
En tout cas, parce que on voit bien que à Guise, il y a les ouvriers qui n'ont pas la chance d'être logés au familistère. Donc ils sont effectivement dans un habitat de très très médiocre, et pourtant. Les ouvriers de la ville, enfin, ont un regard un peu suspicieux sur ceux qui habitent au familistère. D'ailleurs, à un moment, il y a des je sais plus, c'est oui. Là, il y a une femme.
Oui, Astrid.
C'est Astrid. C'est la lingère ou la mercière? Non, c'est la mercière.
C'est la mercière. Hein,
qui effectivement dit. Ceux d'en bas, ceux qui ne logent pas au familistère, considèrent même que c'est un tas de briques. Elle utilise même le terme de lupanar.
Oui, bon, ça c'est historique, hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Parce que ce qui s'est passé, et ce qui était... ce qui aurait pu être, enfin ce qui a certainement même été anticipé, parce que c'était la suite logique, c'est qu'il a bâti son palais, puis ses usines, elles ont continué... C'est un grand industriel, il a eu beaucoup de succès, il s'est développé, etc. Son palais, il pouvait loger 400 familles, et ben il pouvait loger 400 familles, c'est tout. Et en fait, au fur et à mesure que le... Et puis, en fait, quand l'ouvrier, il allait à la retraite, quand il arrêtait de travailler, ben on lui demandait pas de quitter son appartement. Il restait là. Et des fois, bah, l'appartement, il allait aux enfants du couple d'ouvriers qui avait travaillé pour Gaudin, même si les enfants, bah, il n'y en avait peut-être qu'un seul sur les deux qui était ouvrier, voire aucun. Donc en fait, les années défilant, il y a eu de plus en plus de demandes pour avoir un appartement, un logement au familistère, et il y avait de moins en moins de gens auxquels on pouvait donner satisfaction. Donc forcément, ça a créé des tensions, et il y avait effectivement, les gens qui habitaient le bourg... Puis même, hein, le curé, le maire voyaient ça d'un œil... voilà, le maire, il avait clairement de la compétition, hein, dans la personne de Gaudin. Et puis bah, le curé, il n'y avait pas d'église au familistère. Pour le coup, il y avait plein de choses, mais il n'y avait pas de lieu de culte. Donc il y avait effectivement beaucoup de désaccords en fait, entre les uns et les autres. Et les gens du familistère appelaient les habitants de la ville « ceux d'Anville ». C'est pas ceux d'en bas, c'est ceux d'Anville, en-ville, ce que je trouve assez joli. Et ceux d'Anville qualifiaient le palais de tas de briques, voire de lupanar. Et ça, pour le coup, j'ai mis dans la bouche d'Astrid les termes qui étaient employés à l'époque.
Alors, pourquoi, dans le roman, il y a cette phrase que j'isole, « L'Église n'est pas la première supportrice de notre communauté ». Est-ce à dire que... Alors, vous l'avez précisé, Audrey Brière, il n'y a pas... Contrairement aux Schneider, hein, où les Schneider, les Schneider ont bâti des églises au Creusot. D'ailleurs, le Creusot a failli s'appeler Schneiderville, hein, tellement les Schneider sont partout. Gaudin est un peu plus discret. Est-ce à dire que l'Église voyait d'un mauvais œil cette cité ouvrière comme étant une concurrente de la communauté religieuse? Est-ce que l'Église pouvait penser que les âmes pouvaient être confisquées de par cette secte? D'ailleurs, le terme est utilisé par...
Oui, par Mathias. Bon, ça, c'est plus moi qui voilà, le personnage de Mathias étant complètement fictif, je lui donne des réactions qui se veulent provocatrices, en fait. L'Église, oui.
C'est lié à l'éducation des enfants des ouvriers.
C'est lié au fait que toute leur vie tournait autour d'autre chose. Toute leur vie tournait autour d'autre chose. Et puis, on avait quelqu'un qu'incitait les mamans à retourner travailler rapidement. Hein. Bon, ok, on s'occupe de votre petit. Vous pouvez retourner travailler dès que l'enfant a 3-4 mois, c'est pas un problème. Il y avait des assurances maladie, il y avait du divertissement gratuit. Bon, des choses qui n'étaient pas forcément à l'époque. Et voilà, je veux absolument pas médire de l'Église catholique, c'est pas mon propos, mais je pense que oui, on a affaire quand même à une institution qui pendant très très longtemps a régenté la vie dans les campagnes et qui là avait dû céder un peu de terrain quoi.
Alors je lis un extrait du roman, un très court extrait du roman d'Audrey Brière concernant les raisons qui peuvent motiver un individu à venir se réfugier dans un familistère, un endroit où l'on traitait les hommes avec respect, où l'on pensait le futur comme appartenant aux petites gens, un lieu qui était un rêve lumineux et consolant, où la misère et l'ignorance étaient exclus, un lieu dans lequel ils trouveraient un travail et un logement. Alors, c'est important cette idée du familistère comme refuge, parce qu'on est dans un roman policier, dans un polar. Donc, je vous l'ai dit, cet inspecteur Lavaux, inspecteur principal, arrive au familistère de Guise, à l'automne 1922, par un temps de pluie, il arrive sur sa grosse moto et son habit de pluie et anti-poussière. Et effectivement, il y a une enquête, puisque l'institutrice est retrouvée assassinée au familistère, ce qui n'est pas anodin. Et effectivement, il y a un moment, il faut chercher des empreintes, des indices. Tous les habitants du familistère doivent donner leurs empreintes digitales. On y apprend d'ailleurs, cher Audrey, qu'il y a des gens, ça c'est authentique, il y a des gens qui n'ont pas de...
Alors ça, c'est une information que j'ai trouvée, oui. Je pense que c'est une personne sur un milliard et c'est très récent. C'est-à-dire que les premières personnes chez qui on a détecté ça, c'est les années 2000.
Moi, c'est un nombre
ça m'arrangeait de...
Ça s'appelle l'adermatoglyphie. La dermatoglyphie, c'est le fait qu'une personne... Oui, alors, ça reste tout à fait exceptionnel.
Oui, oui, oui.
Personne qui ne laisse pas d'empreinte. Voilà, c'est tout à fait... Alors, si le familistère peut être un refuge, c'est aussi parce que peut-être... Alors ça, est-ce authentique? Est-ce qu'on peut venir se faire oublier les autorités judiciaires ou fuir la justice en venant se réfugier dans un familistère? En changeant d'identité. Là, l'idée était très bonne aussi. Pour votre roman, est-ce qu'il y a une part de vérité ou c'est pure fiction?
Alors, ce que moi je raconte, c'est pure fiction. Maintenant, quelqu'un qui veut disparaître des radars et qui va changer d'identité peut tout à fait atterrir dans ce genre d'endroit qui sont finalement très... très clos. Donc une fois qu'il est dedans, une fois qu'il a sa place, on ne va pas l'y chercher, quoi.
Alors, il faut parler de la hiérarchie, parce qu'il y a un administrateur gérant qui a une fonction importante, parce que j'imagine que c'est un titre qui est confié par le patron, si je puis me permettre.
Alors, c'est un poste qui a été créé justement à la mort de Gaudin. Ou quand il a, je ne sais plus si c'est à sa mort ou quelques années avant, puisque au bout d'un moment, quand il a eu estimé que ça roulait, quoi, il a créé un conseil de gérance. Et le conseil de gérance était composé des ouvriers qui vivaient au familistère, qui étaient élus, qui étaient choisis par leur père pour administrer en fait toute l'institution. Et ce conseil, il était présidé par un administrateur gérant. Rôle qui a été tenu du coup par sa femme, une fois qu'il a été, après son décès, Sa femme a tenu ce rôle pendant quelques années avant de céder le flambeau.
Donc c'est Marie Moret.
Tout à fait.
Voilà. Alors, dans le roman, l'administrateur gérant s'appelle Gabriel Saint-Simon. Il habite l'appartement 265 au premier étage. Alors bien sûr, notre inspecteur principal, pour l'enquête, on met à sa disposition un appartement du familistère, c'est le numéro 23, hein, je crois, où son enquête... Alors, je ne vais pas trop en dire sur l'enquête, mais c'est absolument passionnant. Si vous voulez, j'ai lu ce roman en pleine canicule, alors que finalement, il y a beaucoup de vent, il pleut, c'est l'orage. Et puis, il y a cette atmosphère absolument close, où effectivement, il y a une forme de promiscuité. Les gens se connaissent tous, plus ou moins tout de même. Il y a une espèce de discrétion. Et puis, en grattant, en enquêtant, alors c'est très subtil, c'est très fin, notre enquêteur remonte, parce qu'il a une mémoire absolument hors du commun. Et puis, il a toute l'histoire criminelle de Paris en tête. Hein. Il a une mémoire hors norme, presque inhumaine.
Alors ça c'est pareil, c'est le personnage de fiction que j'ai dessiné de cette façon parce que ça remonte au premier volume, hein, au Malvenu. J'avais envie d'un personnage qui soit pas trop classique, qui soit pas un super-héros, qui soit pas un super flic, ça m'intéressait pas trop. Je voulais absolument, il a une autre caractéristique, c'est qu'il supporte pas la vue du sang.
Ah oui.
Et alors je sais pas, moi ça m'est venu comme une épiphanie, je me suis dit c'est une super idée, mais bon, il faut que je trouve quelque chose qui compense, parce que un policier qui aime pas le sang, c'est compliqué. Donc voilà, et il a ce talent de mémoire qui en fait un enquêteur remarquable, puisque en fait, quand il lit quelque chose, il s'en souvient.
C'est un excellent policier, et d'ailleurs dans le roman, il est dit de lui, il est diablement fin sous ses airs d'ours échappé des cavernes. Donc, en plus, il arrive dans une structure sociale à laquelle il n'adhère pas, il comprend pas vraiment.
Et puis il fait pas d'effort, hein, clairement.
Puis il n'est pas forcément très aimable. Néanmoins, l'enquête avance de manière extrêmement intelligente et efficace, et c'est par le biais de cette grande mémoire qu'il se rappelle des crimes commis en région parisienne 2 ans auparavant, en 1920. Et puis forcément, il y a des recoupements, il y a des liens, je n'en dis pas plus. Mais il y a cet engouement intellectuel sur l'enquête. Et puis surtout, à un moment, intervient un personnage féminin, alors qui me semble très moderne, en 1922, d'abord parce qu'elle porte un pantalon, ce qui est assez exceptionnel. Et puis, tout comme Mathias Lavaux, il y a eu entre eux une complicité sentimentale. Ça a été une femme qui
a compté, oui.
Qui a compté dans le cœur de cet homme et qui débarque. Et alors surtout, l'originalité, c'est qu'elle est très brillante aussi. C'est une femme de relation, hein, donc elle sait poser les questions, elle sait zigzaguer comme ça, elle est très, très rusée, comme les femmes le sont généralement. C'est un compliment hein, que je fais, et non une critique. Et puis elle aussi, alors vous lui avez donné, peut-on en parler, pourquoi vous leur avez donné à votre inspecteur principal et à Esther Louve, puisque c'est d'elle dont il s'agit, pourquoi leur avez-vous donné des enfances aussi et adolescences aussi meurtries, voire violentes en ce qui concerne Esther Louve?
Alors, bon, là, je vous invite aussi à découvrir le premier volume, Les Malvenus, puisque c'est là où c'est dans celui-là qu'on les rencontre. L'enfance de Mathias, elle n'a pas été dure.
Il a manqué de mère.
Voilà, il a mal commencé parce que, bon, ça, c'est pas vraiment... je ne gâche rien, hein, c'est dans les premières pages du premier bouquin. C'est un enfant trouvé qui est recueilli dans un orphelinat. Mais par contre, il va... alors oui, il y aura toujours cette énorme frustration de ne pas savoir d'où il vient, mais il est élevé dans cet orphelinat où il est choyé, éduqué, où il reçoit une vraie éducation. Quand il commence à être adolescent, puis à faire un peu des bêtises, parce que justement, c'est un peu une tête de con, si vous me passez l'expression, et qu'il se sert de son mal-être pour faire plein de bêtises. Bon, bah là, la religieuse qui l'élève lui dit, bah écoute, t'as une mémoire incroyable, tu vas aller faire des études avec Bertillon à Paris, donc qui était le père de la police scientifique. Donc c'est un enfant dont on a pris soin malgré tout, et il est là où il est parce qu'il a eu cette enfance aussi voilà, hein, tous les orphelins des années 1890 ne pouvaient pas en dire autant. Donc lui, son enfance, il y a des trous, il y a des manques. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a vécu une enfance horrible, ce n'est pas le cas.
La romancière Audrey Brière, invitée de la 8e édition de Tous historiques, c'est d'ailleurs à cette occasion que nous l'avons enregistrée en public au cinéma de Toussy, dans le cadre de cette 8e édition de la journée du livre consacrée à l'histoire, une journée qui mettait à l'honneur toute la palette des genres littéraires liés à l'histoire universelle, romans, biographies, essais, mais également BD et livres jeunesse. Une quarantaine de professionnels participaient à ce salon et en étaient invités, salon présidé par l'historien Éric Brancal, et l'invité d'honneur était le journaliste Olivier Mazerolles. On retrouvera Audrey Brière à propos des assassinats dans le Familistère de Guise juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
Tu m'as dit nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, nous c'est pas comme les gens. Oh, oh, nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres, nous sert du temps. T'es entré dans ma vie comme on entre dans un saloon. Ça s'est passé très vite quand tu m'as coupé le souffle. Je n'ai plus vu la foule, seulement tes grands yeux. J'ai bousculé les clowns et les cracheurs de feu pour approcher ton cou, pour te voir un peu mieux. Tu m'as dit est-ce que c'est fou d'aimer jouer avec le feu. Je n'ai rien répondu, j'avais avalé ma voix. Tu m'as dit ça ne fait rien, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Tu m'as dit nous c'est différent, ouais. C'est pas la même chose, non. C'est pas comme les gens. Oh, oh, nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres, oh. Nous sert du temps. Parle-moi de ton job, quels sont tes passe-temps. On a balayé tout ça, on a tué l'adulte dans l'enfant. Pour nous éteindre à jamais, il faut une balle en argent. Ce soir la ville est pleine, mais elle penche énormément. Je n'ai pas d'alibi, la nuit où ma vie est tombée raide du mauvais côté du lit. Autant d'amants que j'aurais d'ennemis, autant d'aimants qui t'aiment à demi. Nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, non. Nous c'est pas comme les gens. Oh, oh, nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, non. Nous c'est pas comme les gens. Oh, oh, nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres. Nous c'est hors du temps.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dans quelques secondes, nous allons retrouver la romancière Audrey Brière à l'occasion de la parution de son deuxième livre, un polar qui a pour titre Mauvais cœur, sorti en librairie aux éditions du Seuil. Je rappelle qu'il s'agit d'un entretien enregistré en public au cinéma de Toussy lors de la 8e édition de Toussy historique. C'était le 23 août dernier. Le moment est venu cette fois-ci de s'intéresser à un autre personnage qui accompagne l'inspecteur principal Mathias Laveau dans ses enquêtes suite au meurtre qui se sont produits au Familistère de Guise. Le moment est venu d'évoquer Esther Louve, qui a vécu avec l'inspecteur principal et qui va le rejoindre sans prévenir au Familistère de Guise. Audrey Brière.
Esther, c'est différent. Esther, elle a une histoire très particulière bien à elle, qui explique en fait pourquoi elle débarque dans le premier volume, dans Les Malvenus. Et en fait, l'histoire d'Esther fait partie intégrante en fait de l'enquête des Malvenus. Donc ça, je n'en dirai pas plus. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien l'idée. Dans le roman policier, c'est très très vaste. Il y a plein de schémas qui existent et tous aussi bons les uns que les autres. Moi, ce qui me plaît, c'est de relier l'enquête de police à l'histoire des personnages. C'est pas un livre, une enquête, et puis indépendamment de la vie de mes personnages. Moi, j'aime bien que ce qu'ils découvrent, les crimes sur lesquels ils enquêtent, c'est pas forcément un hasard, quoi. C'est lié à eux d'une façon ou d'une autre. Moi, ça, c'est un parti pris, en fait, hein, d'écriture.
Alors, c'est aussi un peu les balbutiements de la police scientifique, 1922.
Alors, on n'en est plus au balbutiement, justement, puisque les balbutiements, c'est plus fin 19e, début 20e. Quand Mathias est adolescent, il part étudier à Paris avec Bertillon et ensuite à Lyon avec le docteur Locard, dans son laboratoire là, tout en haut du palais de justice, quand il a une vingtaine d'années. Donc, en 17 et puis ensuite en celui-ci en 1922, les méthodes de police scientifique, elles sont déjà éprouvées, utilisées, quoi.
Alors, concernant Esther, qui va donc rejoindre Mathias Lavaux au Famille Lister pour se pencher sur ces meurtres, parce qu'il n'y en a pas qu'un, en fait.
Non.
Il n'y en a pas qu'un. Et puis, il y a eu d'autres morts en 1920, loin du Famille Lister, mais il y a des choses troublantes. Esther Louve, elle est présentée dans votre roman, je cite, « Elle aimait la lecture, les mots et les cadavres. » Et vous, comment ? Je ne dis pas que vous aimez les mots et un petit peu les cadavres quand même, parce qu'ils s'empilent dans le roman, nous sommes bien d'accord. Il y a quelques belles scènes d'autopsie.
Oui.
Puis il y a quelques belles scènes de meurtre. Hein. Il y a deux personnes dont le visage a été écrasé à la pince, Monseigneur. Alors, je ne sais plus quel personnage dit une vraie bouillie de veau.
Je ne sais plus non plus qui le dit.
Alors, vous êtes renseigné un petit peu pour les autopsies, là.
Ah bah,
tout
bien
est
sûr.
Vrai, là.
Tout est vrai.
Les taches dans les yeux, ces signes d'asphyxie.
Tout est vrai. Tout est vrai. Moi, je suis de ces écrivains qui n'ont aucun problème à prendre des libertés avec l'histoire et la réalité. Je trouve qu'en tant qu'écrivain de fiction, on a le droit. Moi, je n'écris pas de documentaire, je ne suis pas historienne. La vérité parfaite, ce n'est pas mon boulot. Par contre, c'est pour ça qu'il y a des... la première femme dans la police, c'est 1925. Bon, là, on est 3 ans plus tôt. Elle portait un pantalon. Les femmes portaient pas de pantalon. Bon, moi, c'est genre de détail. Pour moi, c'est pas grave. Au contraire, si ça peut asseoir un peu mon propos de qui elle est et de quel genre de femme c'est, ça m'arrange. Maintenant, tout ce qui relève de la police scientifique, tout ça, c'est vrai. Parce que, comme c'est quand même une trame hyper importante dans les deux livres, moi, je voulais vraiment parler de ça. Je vois pas l'intérêt d'inventer des choses, en fait. C'est ce qui m'intéressait, c'était justement d'expliquer comment ça marchait, etc. Et pour les autopsies, j'ai lu beaucoup de choses tout à fait intéressantes.
Vous avez assisté à des autopsies ?
J'ai assisté à une autopsie une fois, il y a très longtemps, quand je faisais des études de droit. Je recommande pas. Sauf si vous voulez écrire un polar un jour, pourquoi pas.
Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que Esther Louve, elle s'intéresse beaucoup aux autopsies. Elle les maîtrise d'ailleurs et puis elle domine parfaitement son sujet. Il y a ce rapport au corps et puis il y a ce rapport à l'être humain. Je reviens sur le personnage de l'inspecteur principal, donc Mathias Lavaux, qui lui a un regard. Alors il ne supporte pas la vue du sang, d'une part. D'autre part, il n'a pas très confiance en l'être humain. Il dit « les hommes bons n'existent pas, il n'y a que des hommes faux ». Et on a le sentiment que seules les autopsies révèlent la vérité, alors que les hommes cachent la vérité. Et d'ailleurs, l'enquête montrera qu'au Famille Lister, il y a des gens qui cachent un peu leur passé, que le passé est frelaté.
Ben oui, c'est le professeur Locard qui disait « seuls les mots mentent ». Et c'était ce qui... Voilà, donc l'autopsie ne ment pas, les scènes de crime ne mentent pas. Et il avait cette phrase qu'il a dit lui-même, hein, qu'il a écrite lui-même, que je ne m'approprie pas, qui dit « Seuls les mots mentent ». Moi, je trouve ça fabuleux, parce qu'en fait, en quelques mots, justement, il a tout dit. Et finalement, Mathias, il a été biberonné à ça. Il a déjà un déficit de confiance parce que, justement, il a été abandonné, etc. En plus, il est convaincu que c'est sa mère la responsable. Il ne vient pas à l'idée une seconde que ça puisse être son géniteur. Mais voilà, il a décidé que... Donc, il a déjà une frustration, une espèce de fiel comme ça pour le monde en général. Et... en intégrant finalement la police scientifique, en travaillant avec Alphonse Bertillon et Edmond Locard, bah, il va être en contact avec tous les criminels patentés de France et de Navarre. Donc en fait, c'est quand même pas des exemples d'humanité qui peuvent le faire changer d'avis. Et puis ensuite, il va apprendre que de toute façon, un individu va lui mentir, alors que les faits, les traces, et vraiment les traces au sens... empreintes, les traces papillaires, les traces de pas, de mains, de salive, de cheveux, de tout ce que vous voulez, ça ment pas. Et Esther, elle en vient à l'autopsie parce que Esther, de par son histoire, qu'encore une fois, je vous invite à découvrir dans le premier volume, a beaucoup de mal, elle est un peu ermite, quoi, sur les bords, elle a beaucoup de mal avec la vie avec autrui. Et un jour, elle rencontre quelqu'un qui va lui dire, mais ok, vous aimez pas les vivants, bah, il vous reste les morts. Donc, et les morts, en l'occurrence, le travail n'est pas fini. Ils ont besoin, en fait, qu'on étudie pourquoi, comment, et pour pouvoir leur rendre justice. C'est à ça que ça sert une autopsie.
Alors, effectivement, donc, différentes scènes de crime, des indices qui sont toujours retrouvés, des traces de pas dans du sang... Le tueur, alors justement, le tueur est présenté comme maladroit, désorganisé et brouillon. D'ailleurs, Mathias Lavaux, l'inspecteur principal, et Esther Louve sont un petit peu parfois perdus parce que le tueur procède de manière un peu surprenante, peut-être en amateur, mais c'est pas si...
Bah, en fait, ils sont persuadés d'avoir affaire au même tueur parce que sur toutes les scènes de crime, il y a un indice concordant.
Ah, ça on peut...
Bah non, juste ça, on peut dire qu'il y a un indice concordant.
Il y a un élément qui revient sur toutes les scènes de crime.
Donc, ils en déduisent que c'est la même personne. Mais à part cet indice, rien. Il y a les méthodologies de meurtre diffèrent, les personnalités. Ils n'arrivent pas à faire le lien en fait entre ces différentes morts. Voilà, Par contre, ils sont convaincus qu'il n'y a qu'un seul tueur.
Il y a ceux qui n'ont pas d'empreinte. Le tueur est-il droitier? Est-il gaucher? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Pourquoi? Quels sont les mobiles des meurtres? Est-ce que c'est l'argent? Parce que tantôt, il y a une petite bourse qui a été dérobée autour du cou d'une victime. Et finalement, on se rend compte que les motifs sont supérieurs au vol, d'une certaine manière, je dirais.
Oui.
Voilà. Et puis, il y a aussi le thème de la culpabilité, le thème que finalement, les bourreaux ne sont jamais loin de nous, finalement.
Oui, et puis bah, toute l'histoire... ça, pour le coup, j'ai rien inventé. La littérature l'exploite à fond et ça reflète une partie de la réalité. Dans bien des cas, les bourreaux ont commencé par être des victimes.
Alors, mauvais cœur, on peut peut-être expliquer le titre.
On peut expliquer
Audrey
le Brière. Titre. Ouais. Mauvais cœur, c'est ce roman, j'avais aucune idée du titre que j'allais lui donner. Ça m'inquiète pas trop, ça, parce que le titre, c'est de toute façon, l'éditeur le valide. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, bah, si je trouve pas un bon titre, c'est l'éditeur fera son job et trouvera un bon titre. Et en fait, j'ai pas eu besoin, parce que Godin est mort en 1888, et il a un monument érigé à son souvenir dans les jardins du Familistère. Et sur ce monument, qui est très massif, qui est très beau, qui représente avec plein de statues, des allégories du travail, des allégories de la maternité, plein de choses. Et il y a un texte que Godin a écrit et qui est gravé sur sa tombe et qui dit, bon, je ne vais pas tout vous...
Oh, lisez-le en entier, Audrey, s'il vous plaît.
Je le lis en entier. « Venez près de cette tombe lorsque vous aurez besoin de vous rappeler que j'ai fondé le Familistère pour l'association fraternelle. Restez unis par amour de l'humanité. » pardonnez les torts que les autres ont envers vous. La haine est le fruit des mauvais cœurs. Ne la laissez pas pénétrer parmi vous. Que mon souvenir soit pour vous un sujet de fraternelle union. Rien n'est bon et méritoire sans l'amour de l'humanité.
Je vous confie à nouveau les références du roman d'Audrey Brière, deuxième roman, un polar, qui a pour titre « Mauvais cœur » et qui est disponible en librairie aux éditions du Seuil. Donc il s'agit d'une enquête menée en 1922 par l'inspecteur principal Mathias Lavaux dans le Familistère de Guise, où ont lieu toute une série de meurtres. Je rappelle aussi que l'entretien que vous avez entendu aujourd'hui sur Radion avec Audrey Brière a été enregistré en public au cinéma Cinétoile de Toussy lors de la 8e édition de Toussy Historique. Je rappelle que c'est une journée du livre consacrée à l'histoire avec une quarantaine d'auteurs invités, des professionnels, des auteurs, des dessinateurs, des conférenciers, des journalistes et des éditeurs. Salon 2025 qui a été présidé par l'historien Éric Branca et dont le journaliste Olivier Mazerolles était l'invité d'honneur. Nous aurons d'ailleurs courant décembre l'opportunité de partager avec vous une conférence que nous avons enregistrée, conférence donnée par François Houtsec, intitulée « De la chaumière au champ de bataille », conférence qui nous donnera un très grand nombre d'informations sur la vie militaire et de quelle manière les soldats de Napoléon vivaient ou étaient recrutés. Je rappelle que François Houtsec s'est fait une place dans la communauté scientifique, notamment en étant le pivot de la correspondance générale de Napoléon publiée par la Fondation Napoléon. Et puis, je voudrais, avant de nous séparer, saluer et remercier Anne-Cécile et Jean-François Faure de la librairie Joffac de Toussy pour leur confiance et leur accueil. Et puis une mention toute particulière et particulièrement affectueuse pour mes amis Sylvie et Jean-Jacques Ricard, anciens libraires à Tonnerre, particulièrement investis dans l'organisation de ce salon du livre d'histoire de Toussy. Rendez-vous courant août 2026 pour la 9e édition qui est déjà en préparation. Si vous avez manqué cette émission, bien sûr, vous la retrouverez en podcast sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. La semaine prochaine, nous resterons dans le cadre de cette 8e édition de Toussy Historique à travers des reportages que nous avons enregistrés lors de cette belle journée dans l'église fortifiée de Toussy, l'église Saint-Pierre, notamment avec des reportages. Devant notre micro, nous aurons Denis Martin pour deux opuscules publiés par Adiamos 89, Le grenier d'abondance d'Auxerre, 1860-1903, et puis, autre opuscule de Denis Martin, Les réalisations sociales à Auxerre au temps du Front populaire. Nous partirons aussi à la découverte de l'association Sauvegarde et Développement Puisaye, pardon, avec la réédition de la Puisaye de nos ancêtres, traditions et mœurs d'autrefois. Et nous aurons également le plaisir de partager avec vous un entretien avec Alain Robert pour un très bel ouvrage intitulé « Lyon, pages d'histoire » paru aux éditions Sutton, un très beau sommaire, samedi 1er novembre prochain, à partir de 11h sur Radion. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier. Au revoir et à samedi prochain.